une dalle très réverbérante. Donc ça veut dire que la voix, les pas, le cliquetis, le bruit du gravier qui crisse, etc. est bien émergent. Et en même temps, vous n'avez pas trop de réverbération. C'est-à-dire qu'il y a un retour sonore, mais on voit bien, on sent bien par rapport à des habitats plus contemporains, souvent, qui sont beaucoup plus vitrés ou beaucoup plus homogènes, ou si vous êtes en Suisse, vous avez des trucs minimalistes qui font la coqueluche des revues d'architecture. Et du point de vue phonique, c'est souvent assez désastreux parce que du coup, c'est complètement réverbérant. Et vous vous trouvez dans des espèces de cathédrales, dans des espaces publics un peu mineurs, quoi. Et là, je dirais que moi, je trouve ça plutôt assez heureux, assez agréable, parce qu'on sent bien la présence des façades, on a un bon retour. La parole, là, je parle sans du tout forcer ma voix, d'ailleurs peut-être que certains n'entendent pas bien, mais elle est portée quand même par ces réverbérations-là. Et du coup, on a un assez bon équilibre. Alors, qu'est-ce qui compte là-dedans? C'est le fait qu'on est quand même au sol aussi des matériaux différents. On a plusieurs revêtements, on a un petit peu de terre. Et qu'en façade, pareil, on a effectivement des volets,
des pilastres et
tout ça, mais on a des séries de balcons en bois qui font piège à son. Ouais. Et puis, voilà, il y a des entrées, il y a des trous. Vous avez en même temps de l'ouverture, puisqu'il y a ces espèces de cours qui s'articulent. Vous avez ces objets qui doivent être des ventilations de parking ou je sais pas quoi, qui font des perturbations aussi au sol. Donc du coup, vous n'êtes pas dans un espace complètement lisse, qui est, voilà, si ça n'est pas maîtrisé, ça peut être une vraie catastrophe sur le plan acoustique quelquefois. Vous voyez, on est très bien orienté aussi, puis dès qu'on a une voix, un cri, il sonne bien, il est distinct, on sait là à peu près la distance. Et puis par le trou de ici, on a un son beaucoup plus lointain. Il doit y avoir des jeux d'enfants ou des ados qui sont de deux ou trois cours plus loin. Mais on les entend, on a des espèces d'ouïes sonores, et en même temps c'est très orienté. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de son tournant, on sait où on est, quoi. Et le son aide à nous orienter. Parce que certains plaident des fenêtres ou des portes sonores. Hein. Quelquefois, certains gens comme Élie Tête, par exemple, utilisaient ces métaphores de l'architecture pour le sonore. Quoi. Une fenêtre sonore, bah, c'est vraiment ce truc-là. Tout à coup, on a un son lointain qui passe par un trou et qui arrive jusqu'à nous. Et parfois la fenêtre sonore se superpose avec la fenêtre visuelle, parfois pas du tout, quoi. Ça dépend complètement de la situation. Là, c'est beau, hein. Vous avez là il y a un bon exemple de caractère qu'on a souvent utilisé, mais je crois que Grégoire il a travaillé plus sur ce rapport, cette question du rapport entre le proche et le lointain. Et moi je trouve qu'en urbanisme, quand on pense à la qualité de l'espace public, de réfléchir à ça est un bon critère, quoi. C'est-à-dire que si on peut hybrider des sons proches et des sons lointains, ben, c'est une façon, si vous voulez, de mettre en son un critère comme celui de l'articulation des échelles. Hein, on va toujours dire qu'un espace public réussi, ben, c'est qu'il est pour le quartier, pour les riverains, pour etc. Mais si vous le faites comme un éco-quartier aujourd'hui, avec des grilles et des machins, c'est que pour le quartier, ben, c'est plus du tout un espace public. C'est un espace, même s'il est public statutairement, ce qui est d'ailleurs rare, mais en supposant même qu'il le soit, si c'est que pour les gens du quartier, c'est un truc qui devient communautariste, qui devient un seul type d'habitants, de classe sociale, etc. Donc vous n'êtes pas du tout dans la logique de l'espace public. Pour qu'il devienne espace public, il faut qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent le fréquenter, parce qu'il y a un équipement qui a plus de valeur que simplement pour le quartier, ou parce que il y a une station de bus ou de métro ou de tramway, parce que il y a un supermarché qui a un rayonnement plus grand que simplement le quartier. Et ce sont ces choses-là qui font articuler des échelles, pas seulement au sens spatial du terme, là ce sont des questions de composition pour qu'on ait des perspectives, mais aussi au sens de l'usage. Et du coup, phoniquement, ben voilà, cette perception proche-lointain, c'est tout à coup on a des sons, plus loin, on a des sons de la ville. Ils ne sont pas masquants, ils ne sont pas contraignants, comme quand on est devant une quatre voies avec les fenêtres ouvertes. Mais on entend quand même la rumeur des voitures. Et puis on a des voix très distinctes devant, proches, mais aussi lointaines par des ouïes. Et tout ça, je trouve que voilà, c'est une vraie qualité du,
proche, après, loin,
du calme incroyable qu'il y a ici. Mais c'est un calme qui n'est pas éteint, du moins pas complètement. Il pourrait y en avoir un peu plus. Hein.
Bon, ça ne fait pas de mal.
Mais... voilà, on est en train de discuter, il y en a trois qui discutent là en fumant une clope. Il y a des ados qui jouent là-bas, là il y a une petite mère avec un enfant qui vient passer, il y a des gens qui passent. Tout ça a des rythmes très calmes, tranquilles. Mais si on l'enregistrait, ça raconterait vraiment toute une histoire de ce lieu-là. Les sons sont très distincts. Bon. On va plus loin. Je suis prêt à parier que les enfants qui jouent à cet âge-là, etc., ils apprennent à placer leur voix pour que ça sonne bien et que ça passe dans ce genre d'espace-là. Parce que c'est des cris voilà, un peu génériques. Quoi. Parce qu'on est enfoncé, qu'on est légèrement cerclé. Donc on a un minimum de réflexion en ras du sol et du coup, dès qu'on bouge, dès que lui bouge son truc ou son cuir là, ou je sais pas ce que tu viens de faire, et puis toi tu as glissé sur un caillou, ça devient très 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 présent. Et puis ben, les jeux qu'on entendait de loin par la petite fenêtre, ben là on a une grande fenêtre, on est un monde carré, quasi direct, pas direct parce qu'il y a de la pente, mais qui est vraiment réfléchi par les quatre façades où là on peut imaginer que ça passe et du coup on est en plein cœur et on entend très très bien. Là les phares de tout à l'heure, vous voyez, dès qu'ils sont sur des trumeaux pleins, ça va quand même un peu mieux. Parce que tout à l'heure ils étaient carrément sur les menuiseries foncées. Là. Donc là ça donne un tout petit peu de lumière. Mais ce lieu acoustiquement, je dirais qu'il est en gros de très bonne qualité, mais du point de vue lumière, c'est un peu un désastre, quoi. Puis en plus, quand il pleut comme ça, c'est luisant. Il en manque un peu, quoi. Il en manque sur la petite échelle. Je pense que par exemple ici, on a voilà, une présence des façades. Qui est pas mal aux éblouissements près, qui pourrait être un tout petit peu renforcé pour donner un fond lumineux d'ambiance générale, et avoir des ponctuations beaucoup plus fines qui sont à beaucoup plus petite échelle sur un espace comme celui-ci peut-être, ou bien des sous-espaces où il y a des bancs et des trucs comme ça, où, pour que des gens commencent à s'y mettre doucement, et puis faire monter un tout petit peu peut-être la valeur de l'usage, mais qui j'imagine l'été est quand même très très supérieur parce qu'on a la montagne, quoi, donc, mais il y a un vrai potentiel, c'est vrai que ces façades avec leur claire-voie, leur piégeasson, leur porche et ces espaces très minéraux, peut-être qu'il pourrait y avoir un tout petit peu plus de terre pour que ça, mais c'est déjà bien, hein, et c'est bien que dans des espaces où il n'y a plus de voitures, que la voix ou les pas sonnent un petit peu, pour qu'il y ait un peu de présence, quoi. Alors vous voyez cette présence-là.
On a été les arbres sont pleins de feuilles, ça scindit encore différemment.
Alors les arbres sont un élément non pas de, d'isolation acoustique, hein. Il y a beaucoup de gens qui croient quand il y a une haie, on coupe le son. Alors tous les acousticiens vous expliqueront que ça ne fait rien du tout et que si on mesure, on peut avoir une haie, des trucs même très denses. Ça fait rien du tout. Moi je dis toujours mais si ça fait beaucoup parce que les gens croient, donc c'est aussi important qu'ils croient que la réalité de la mesure. Donc ça modifie les choses. En tout cas, d'un point de vue synesthésique, ça peut modifier les choses. Mais par contre, comme émetteur, oui. C'est-à-dire que. Et là, suivant les essences d'arbres, moi je cherche des paysagistes qui s'intéressent à ça, mais je ne connais pas assez bien. J'essaye un peu, mais. Vous voyez bien qu'un eucalyptus, si vous avez entendu des forêts d'eucalyptus, ouais. Ça cliquette pas mal, quoi. Un bouleau, ça cliquette moins, mais ça cliquette encore un peu. Après, un caoutchouc, ben, ça grince. Un marronnier, c'est autre chose. Un platane, c'est encore autre chose. Et les résineux, voilà, dans le vent, ça siffle. C'est tout à fait différent comme matière sonore. Donc les essences d'arbres font sonner l'espace différemment, et c'est sûr sur un espace comme celui-là, quand il y a une petite brise, mais je ne sais pas ce que c'est.
C'est des catalpas. Là.
C'est des catalpas. Ouais, donc là, c'est des grosses feuilles. Ouais. C'est du point de vue sonore, c'est... je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de grande qualité aux catalpas. Sauf quand ils sèchent à l'automne, non, ça va faire des... Ça fait des grandes feuilles qui sèchent un peu, qui font des carpins. Ouais. Mais voilà... c'est vrai que là, quand il y a un peu de courant d'air, en plus avec les ouïes qu'il y a, il doit y en avoir, même quand il y a peu d'air, ça doit circuler. Alors tout à coup, on a une petite émission sonore qui est valorisée par le sol ici réverbérant, un petit peu déconcert, un petit peu enfoncé, un petit peu surbaissé. Donc ça se met à compter comme présence sonore dans l'espace, certainement. Mais l'hiver, moins.
Et ça attire les oiseaux comme ceci.
Et ça attire les oiseaux, tout à fait.
C'est vrai que là, on a la chance d'avoir des arbres adultes, alors que dans les cours qu'on a pu voir, qui sont plus récentes, les arbres sont beaucoup plus jeunes.
Ouais, tout à fait.
On oublie presque ce que c'est qu'un arbre dans la ville. Tellement il renouvelle dès que ça prend des racines, il y a peu de.
C'est vrai que celui-là, il est peut-être, d'avant.
Il traîne des maladies. Le platane, il est trop utilisé et donc il chope très vite des maladies. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des alignements complets de platane qui disparaissent d'une avenue et d'un coup, ça modifie la perception.
Canal du Midi, là. Voilà. 360 000 arbres, je sais pas. Ouais. Et là, il replante assez vite parce que sinon, le canal, il
coupe.
Parce que dans la stabilisation du canal, il y a 500 000 platanes de plus de 200 ans qui sont en train de.
Mais c'est
ben, on ne sait pas. Et...
ils cherchent plutôt à créer des nouvelles.
C'est comme le cancer, quoi.
Des nouvelles essences.
C'est peut-être un truc, mais il y en a un autre qui apparaît.
Ils essaient d'en faire des croisements qui soient résistants à cette maladie.
Voilà.
Donc ça fait des nouveaux sujets mais à replanter à la place des anciens.
Mais après, c'est vrai que dans la plantation des villes, par exemple, le choix des essences d'arbres, ben, souvent, comme architecte, comme urbaniste, on a tendance à dire ben, on veut les mêmes, des alignements, etc. Aujourd'hui, dans les services d'espace vert, pour des raisons de maladies, on se rend compte qu'il y a des maladies qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, le platane n'avait jamais été malade. Quoi. Alors, et que c'est un peu chaque essence, chacun son tour. Quoi. Donc, quand il faut 40 ou 50 ans pour avoir des beaux arbres, bah, tu vois, tu as tout planté dans telle essence, et puis 40 ans plus tard, au moment où il commence à devenir intéressant, il faut tout abattre. Du coup, on a tendance à. Et ça va avec les thèses de biodiversité, etc., à diversifier les plantations, ce qui n'empêche pas de choisir sur telle rue telle essence, quoi, pour avoir des beaux effets, mais pas forcément d'être systématique et monovalent. Quoi. C'est les forêts nazies. un drame écologique, hein, en Allemagne de l'Est, etc., de forêts qui ont voilà, 60 ans, 70 ans, qui ont été plantées par les nazis. Et puis il y avait trois essences, c'était comme l'homme, quoi. Il y avait trois essences aryennes, c'était je ne sais pas quel truc, donc c'est des forêts mono.
Comment on trouve ça en France aussi. Pourquoi monospécifique.
Monospécifique, voilà.
On trouve ça en France
ouais,
aussi.
Ouais, ouais.
Des paysages entiers de résineux, c'est la même espèce, ouais. La même.
Et du coup, c'est extrêmement fragile.
Même des fois, c'est des boutures, donc c'est même le même individu génétiquement qui est multiplié à l'infini. Ouais. Les oliveraies aussi, pour ouais. Avoir une certaine analyse.
Bon, je sens qu'il n'est pas informaticien. Vous comprenez aussi que l'éclairage de l'espace privé compte dans l'espace public. Alors là, c'est pas très prégnant, sauf que malgré tout, on a une vraie présence liée à cet éclairage privé. Et dans les espaces plus urbains, plus classiques, très souvent, on voit des vitrines qui sont éclairées à fond la caisse, etc. On n'aurait besoin d'aucun éclairage public parce que l'éclairage privé suffit à donner une ambiance. Souvent, c'est en lutte, quoi. Et donc là, il y a des tas de choses qui peuvent s'inventer aujourd'hui avec les techniques nouvelles et les capteurs, etc. Et d'imaginer qu'effectivement, on ait des régulations qui soient possibles en termes d'économie aussi à l'échelle urbaine pour que lorsque des vitrines éclairent le trottoir, ben, on n'ait pas besoin de suréclairer et qu'on puisse amoindrir l'éclairage, etc. Le faire varier suivant les périodes de la nuit, etc. etc. quoi. Mais là, en effet, alors on retrouve un petit peu différemment, plus sur un regard de façade, l'intérêt effectivement des lamelles. Et on voit qu'architecturalement, ça n'a pas été fait pour ça, mais c'est aussi des choses qu'il faut apprendre à méditer. C'est que, et du point de vue sonore, et du point de vue visuel, ce bardage a des qualités. Parce que voilà, il y a des barreaux verticaux et les rideaux, c'est des lames horizontales. Bon. Peut-être même qu'il y a pensé à un moment donné, l'archi, quoi, parce qu'en dessinant, on les voit, ces trucs-là. Mais voilà, visuellement, ça devient très, très agréable. Et du point de vue phonique et sonore, eh bien, ça joue un rôle de piège à son, ça joue le rôle de modulateur, qui ici se complète avec les modelés de terrain. C'est-à-dire que dès que vous avez des modelés comme ça, collinaires, vous avez une espèce de modulation fine des réverbérations qui adoucit les choses, qui les enveloppe et qui, du point de vue sonore, est aussi une façon d'amener de la qualité et de l'orientation, souvent. Alors là, par exemple, on vient de traverser, bon, vous avez tous vu, évidemment, on monte, on descend, on fait un petit effort, donc on souffle, donc on parle un peu plus fort, on dit qu'est-ce qui se passe, etc. Et on est sous un espace qui est très réverbérant puisque on est dans du béton brut, etc. Et après on redescend et crac, on retombe dans un espace qui est beaucoup plus mat et tout ça, et on continue, et on remonte en face, on continue, etc. Et ça, c'est aussi des logiques de traversée qui, par rapport à l'axe principal qu'on a pris jusqu'ici, qui était un peu toujours avec la même réverbération, le même climat sonore, le même climat lumineux, etc., mais très bien orienté avec certaines qualités ici. Tout à coup, on a une plus grande narrativité, nous on dit souvent. C'est-à-dire que le cheminement se met à raconter une histoire parce que ben ouais, le franchissement de ces trucs-là, le fait d'avoir 5 marches à monter d'un côté, 5 marches à redescendre, plus la petite pente, c'est un petit effort, c'est une redescente. Corporellement, ça modifie l'attitude. Et phoniquement, ben, y a un passage dans un moment très réverbérant. Puis après, de nouveau, c'est clair. Puis après, ça continue. Puis là, on a un chien, heureusement que... Normalement ça marche. Il doit être sourd. C'est un chien sourd.
Il est concentré.
Ah oui, ah oui, il fait un effort. Non là je peux pas aboyer quand je fais ça. Et oui, oui. Bah, mais les chiens c'est précieux, hein. Il faut les pincer pour faire sonner l'espace. On a des beaux enregistrements de ça, de chiens. Je sais pas, on continue par où? On remonte par là? Les sons privés, les sons publics, bah, dans ces pays-là, c'est normal d'entendre une mémé gueuler alors qu'on est en train de le faire public. Alors qu'ici, si tu as quelqu'un qui gueule dans un appart, tout le monde va dire qu'est-ce qui se passe? Et ces comportements, on voit bien qu'ils sont engrammés culturellement, quoi, qui sont incorporés mais par des cultures locales et qui dépendent aussi de facteurs naturels qui sont les facteurs climatiques, qui sont les facteurs géologiques. Parce que si j'habite dans la montagne, ben, j'ai des réverbérations sonores au bord d'un lac que je n'ai pas du tout en pleine campagne ou dans le bocage breton. Et donc, voilà, il ne faut jamais parler de déterminisme. Hein. Ce n'est pas parce que c'est ça qu'il a tel accent. Mais de codétermination, oui, et parmi énormément de facteurs. Et là, du coup, vous vous couvrez contre bien des défauts de notre société. C'est-à-dire que ça devient un jeu, quoi, d'essayer de trouver des corrélations entre des choses où on sait que ben, c'est un peu indémontrable. Mais par contre, il y a une vraie poétique à faire émerger ces corrélations. Et on sent bien qu'en situation de conception, ben, ce sont des façons d'augmenter la probabilité d'occurrence de ceci ou de cela, ou d'induire plutôt tel ou tel comportement. Par exemple, quand on est arrivé ici, là, j'étais frappé comme Noah parlait tout doucement, c'était avec toi, je crois, ou je ne sais plus avec qui, devant, mais elle parlait tout doucement, quoi, comme si elle était rentrée à l'église. Et c'est l'espace qui fait ça, quoi. Et vous, vous étiez derrière, j'étais un peu entre deux, vous étiez tout le groupe, vous parliez très doucement aussi. On est par cette structure d'espace là, ça induit un comportement de, voilà, de calme, de, on n'a pas besoin de gueuler pour s'entendre, mais du coup comme ça réverbère un peu, ben, voilà, implicitement on ne veut pas déranger, on ne veut pas faire chier, on est tranquille, on est plutôt dans ce climat là, quoi. J'espère que plus tard on sera un peu plus excité, mais voilà, ce sera dans un autre environnement, quoi. Et évidemment qu'on peut tous se mettre à gueuler là. Ici d'ailleurs on peut le faire. Allez, on gueule tous là. C'est possible. Mais la structure de l'espace, l'environnement et ce que nous sommes en train de faire n'induit pas ça. Elle est où pour vous ?
Ouais.
Moi je l'entends là.
Moi j'entends là.
Ça, ça,
c'est bizarre.
Ça s'appelle l'effet
d'ubiquité.
C'est partout. C'est
le son qui vient de
partout.
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 Partout. Et on ne sait pas.
Nulle part.
Ça se
mélange. Nulle part.
Nulle part.
À
la foi.
La foi. Je croyais que c'était moi qui l'avais écrit, mais que dalle, c'est vous en fait. Ça m'énerve. Voilà, on a travaillé sur cet effet-là, qui est, c'est moi qui m'en étais occupé, alors il me fait chaud au cœur. Mais en effet, la cloche d'église, alors, pas
mais
tellement là, ça c'est peut-être...
Je ne sais pas s'il y a d'église à côté, ah, ouais. Bizarre.
Non, mais c'est vrai que les sons d'église, si vous voulez, les très fortes réverbérations, dans les espaces religieux ou les espaces culturels sont là pour produire un effet d'ubiquité avant que la sonorisation n'existe, une sonorisation naturelle qu'il faudrait peut-être qu'on redécouvre un peu d'ailleurs, et où voilà, la voix du curé, du prêtre, de l'évêque, elle doit absolument venir de nulle part et partout à la fois, parce que c'est la voix de Dieu, quoi. Et que Dieu précisément il est partout et nulle part à la fois, quoi. Et donc derrière cet effet sonore, il peut y avoir un truc hyper angoissant, des délocalisations, etc. Mais le côté angoisse, etc., il est lié à un sentiment de pouvoir, il y a une expression du pouvoir. C'est-à-dire que cet effet-là est souvent une expression du pouvoir. Et c'est vrai, ben, évidemment, des espaces religieux, puisque c'est une représentation sonore de la présence divine, ou d'une présence spirituelle. Mais c'est vrai aussi, si vous réfléchissez à toute l'architecture néoclassique du 19e siècle ou contemporaine, des grandes zolas, des banques, des palais de justice, des amphithéâtres d'université, etc. C'était très souvent des grands espaces extrêmement minéraux, des parquets très réverbérants, et où le
le mec qui arrive en retard, ça grince. Et celui qui parle, eh bien, la voix est amplifiée par la configuration spatiale. Et c'est lui qui a le pouvoir. Quoi. Et vous devez croire à sa parole. Quoi. Donc, voilà. Alors là, l'effet, il est tout doux, et parce qu'il est très lointain et tout ça. Mais de fait, le fait que ce soit délocalisé, ah, un drôle de truc. Alors que tout à l'heure, au contraire, on avait des sons qui étaient hyper localisés, qui nous orientaient. Là, ça nous désoriente plutôt. Non mais là vous voyez tout de suite un petit amplificateur quoi. On voit les zones, on est à l'abri, on peut parler, etc. quoi. Ben, ça c'est une entrée d'immeuble. Donc vous avez envie que les gens parlent ou pas? Vous faites ça, il y a bien des chances que. Donc, et puis vous rajoutez un banc anglais, vous êtes sûr que vous aurez du monde et que vous allez mettre en place un contrôle social. Quoi. Alors qu'il y en a d'autres qui vous diraient, mais c'est un piège, on peut attaquer le mec qui passe derrière et l'assassiner. Quoi. Ce qui est vrai aussi, forcément. Mais en termes de probabilité, moi je pense que de créer un espace comme celui-là, dans une entrée d'immeuble comme celui-ci, qui a 4-5 niveaux, qui a donc tant d'appartements, etc., ben, c'est une bonne échelle, parce qu'on s'entend bien. Et alors évidemment, on est aussi à l'abri de la pluie ou à l'abri du soleil dans un climat chaud. Donc voilà, il y a un côté niche, etc. Mais la dimension sonore d'un retour, parce que c'est relativement haut aussi, hein, c'est pas, on n'est pas juste ras ou coincé. Quoi. Et il y a un petit volume qui fait que ça sonne bien. Du coup, bah, très naturellement, on va venir... il faudrait sonoriser la moto. C'est terrible ces motos. Tandis qu'avant... Vous imaginez, alors patrimoine, si on fait patrimoine, il faut obliger à remettre des moteurs sur les scooters, parce que le type, là, il accéléra à tous les coups pour avoir le réverb dans le petit truc ici. Là. Là, j'ai dit ça, j'ai une belle image, j'ai fait une conférence la semaine dernière, j'ai une belle image d'un tunnel sous une route à Fribourg, ça, où il y a un scooter qui passe. Et quand on voit l'image, on entend le mec qui... Ah, et puis il est content de faire ça. Et si tu as la moto, tu peux pas faire autrement que d'accélérer à cet endroit parce que ça sonne bien. Quoi. Ça, bon. Voilà, tout ça c'est des anecdotes. Vous sentez bien que vous l'avez vécu tous et que c'est des choses donc partagées. Évidemment, on n'est pas obligé d'accélérer. N'empêche qu'il y a bien des chances que si on n'est pas trop mauvais poil ou alors si on est très en colère, on va accélérer vraiment. Et donc. De faire ça, bah, de passer sous un tunnel ou de faire des configurations spatiales qui amplifient le son, bah, ont tendance à impliquer des usages. Évidemment qu'on ne va jamais obliger les gens à s'asseoir là. Mais il y a des chances que ce truc-là favorise la tendance à. Et je crois que c'est ça le rapport entre la conception architecturale, urbaine, paysagère et... la part sensible des choses. Ne pas croire que le sensible peut imposer quelque chose ou peut rendre une fonction, rendre un service fonctionnel. Mais par contre, elle peut induire, elle peut accompagner ou augmenter la probabilité pour que tel ou tel usage, telle ou telle pratique se mette en place. Allez. passe là, ce quartier là, je trouve. C'est-à-dire que...
Les allées avec les arbres.
Ouais. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais... Vous trouvez ça bien, pas bien, agréable, pas agréable. Non, bien, pas bien, je m'en fous, mais...
C'est plus cloisonnant que les autres, c'est ce qu'on disait ce matin, quoi.
Plus quoi? Plus
cloisonnant, c'est-à-dire que les habitations sont beaucoup plus en retrait. Donc, quand on marche, on se sent moins au seuil de la porte, quoi.
Ouais.
Les immeubles sont beaucoup plus fermés,
ouais,
inaccessibles.
Ouais. C'est triste.
Non, il y a une espèce de paradoxe, hein, parce que l'aménagement, il est, en tout cas pour la France, il est vraiment de très très bon niveau, quoi. C'est bien exécuté, c'est propre, c'est nif, il y a du végétal, c'est du petit boulot mimi avec les troncs blancs, il y a un mail, c'est généreux, le gabarit est large, etc. Mais, voilà, quelqu'un a dit c'est monotone. Ouais, c'est vrai que de là-bas jusque-là...
Ça procure pas beaucoup d'émotions.
Ça, ce genre d'échelle-là, je sais pas, c'est une grande avenue dans une ville, quoi. On va dire qu'on va remettre une 4 voies, là, si on rase le truc, on peut même le laisser, là. Et bon, et puis rouvrir les façades. Et vous voyez que les façades sont mises à distance. Donc c'est l'idée d'une privatisation et d'un espace privé qui pourrait être tranquille, pour pas qu'il ait de rapport avec l'espace public. Alors que justement, dans nos réflexions sur les dimensions sensibles, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre l'espace public et l'espace privé. Ce sont deux polarités. Moi, j'aime bien dire ça souvent. C'est qu'il n'y a pas d'espace privé. Dans l'espace privé, quand justement une mémé, elle gueule, et ben, sa voix, elle est dans l'espace public. Et puis, c'est sa scène de ménage qui est dans l'espace public. Donc, il y a une porosité. Il y a pas. Donc, ce sont deux polarités. Ça va du plus privé au plus public. On a donc un degré de publicité ou un degré de privacité qui est variable suivant les choses. Et ce qui est intéressant de gérer, c'est le rapport entre ces choses-là. Alors, visuellement, par la configuration spatiale, ici, voilà, on trouve ça dans les photographies des revues de paysagistes, tu connais ça mieux que moi.
C'est
vachement beau, ça a été
beau, hein.
Publié, tout ça. Parce que le boulot, ça a été aussi une grande mode, ça s'estompe un peu. Hein.
C'est l'allée des romantiques, ouais. En plus, ça s'appelle.
Ah oui, oui, en plus, ça s'appelle l'allée des romantiques, c'est vachement original. Mais le boulot a été, je sais pas, c'est Michel Desvignes.
C'est graphique, ça se détache.
Ça s'appelle aussi. Parce que c'est blanc, c'est graphique, c'est des photos magnifiques, quoi, pour la revue d'architecture. Quand vous êtes sur place, vous dites c'est monotone. Et puis je me dis, mais putain, mais c'est quoi cet espace-là? Il y a 6 mètres qui sont inaccessibles. Vous faites sur 300 mètres, 300 x 6, 1800, 18 000 mètres carrés, pour que dalle, quoi.
Pour l'infiltration de l'eau, 000, enfin, pour d'autres quoi. Enjeux, quoi.
Alors, peut-être qu'il y a d'autres choses. N'empêche que
c'est moins imperméable, c'est les gestion des eaux différentes de là-bas où c'est très dalle et
ouais.
Où les eaux on sait pas trop quoi en
ouais.
Faire.
Ouais. Tu penses que c'est une moule? Oui, sans doute. Enfin, ça. Pied d'immeuble.
Ou du moins que ça sert de... à récupérer les eaux.
Ouais.
C'est moins surface un peu.
Oui, oui, en surface. Mais en tout cas, c'est une mise à distance du logement. Et au lieu d'avoir la possibilité d'avoir quelques arcades. Que dans le temps, sur les 50 ans à venir, il puisse y avoir des commerces, des services, des trucs qui se mettent et qui fassent vivre la rue.
Voilà,
et donc il y amène voilà. Des dimensions sonores, il y amène des dimensions de contrôle social, etc. Et bah, fatalement, là, vous avez des gens qui vont dire, ah ben non, là, on a laissé ouvert, ça va, on a assez de merde, maintenant, on va clôturer, quoi. Puis vous allez avoir une résidentialisation, si elle n'est pas déjà faite, de ces immeubles-là. Et une auto-amplification des représentations que l'espace public est dangereux et que je sais pas quoi. Et voilà. Et ce type d'aménagement bien fait, professionnellement irréprochable, et qui a l'âge de son époque, et ben il est coupable et il est complice de ces tendances au repli et à la représentation d'une opposition à construire entre l'espace privé et l'espace public. Alors là, toutes les questions de son ben, se jouent aussi, parce que de fait, une fois de plus, on est dans une espèce de silence, une bagnole qui passe de temps en temps. S'il y a des gamins qui hurlent ou je sais pas quoi à 2h du matin ici, vous êtes sûr qu'il y a 3 appartements qui se réveillent, il y en a au moins un qui téléphone aux flics.
Et puis on a encore le règlement qui augmente. Alors que si vous amenez un minimum d'usage, ben, voilà, il faut modeler les choses, il y a des rythmes qui se prennent, il y a des choses qui se négocient dans les usages, et ça redevient normal que, oui, il y ait du son dans la ville, que, oui, il y a des gens qui voient les autres gens, que ce ne soit pas des entrées suréclairées et sécurisées, quoi. Parce qu'il y a un minimum de présence et de contrôle social, quoi. Donc tout ça, ça a l'air de rien. Évidemment que ce n'est pas les boulots qui sont responsables de ça. Mais vous voyez le raisonnement, c'est que c'est un signe de tout un type de façon de faire qui fait qu'on est dans la pente de la séparation des choses. Alors que ça devrait faire le contraire.
En plus, ouais. Le boulot, c'est l'arbre le plus allergène dans les... dans les espaces publics maintenant. Enfin, qui... Mais en fait, le pollen est très fin, ouais. Donc il vole à 300, ouais. Je crois, kilomètres. Enfin, et c'est la première source d'allergie. Enfin, moi, je suis allergique au boulot, donc je connais un peu le chapitre. Et c'est vraiment quelque chose. Ben, là, je n'habiterai jamais. Quoi. Enfin, Et c'est bizarre pour une conception ultra contemporaine de mettre du boulot. Enfin, pour des questions de santé publique aussi, c'est vraiment l'ennemi. Quoi. Parce
que... Mais les boulots, c'est résistant. Moi, je dis toujours ça à mes étudiants. Ça marche très, très bien si on a des fonds du point de vue visuel et graphique, puisque c'est ça. Là. Si on a des fonds foncés, quoi. Parce que alors tout à coup, effectivement, ça devient un truc qui est très structurant, très beau, quoi. Mais après, en avoir 300 mètres comme ça, bon, pourquoi pas, je sais pas.